en tête. Philippe Ligron et Dujat.
Bonjour monsieur, l'émission Bille en tête vous pose cette question. Quelle est la différence entre l'agriculture intensive et l'agriculture extensive?
Je n'en ai aucune idée.
Eh bien, on va tout vous expliquer.
Merci.
Service public. La vie est belle dans le canton de Neuchâtel, ici Montézillon avec Philippe Ligron.
Exactement, et nous sommes heureux d'être arrivés à Loubier. Nous sommes toujours en compagnie du directeur Christophe Cordès qui nous fait le plaisir de nous accueillir et je crois qu'il va être rejoint par son épouse Michel Grandjean Cordès. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe, nous sommes descendus d'un étage hein, puisque oui. Nous étions à la réception hier et nous voilà aujourd'hui dans l'antre. Hein. Enfin, moi c'est un endroit que j'affectionne particulièrement, un endroit plein de vie parce qu'on voit que ça bouge de partout. Beaucoup de gens pas mal occupés, tels que votre épouse, qui va peut-être venir, des produits, des clients. Donc, on est où ici?
Alors, on est maintenant au milieu du restaurant et aussi juste à côté du magasin. Alors, le magasin, il se trouve quasi au restaurant.
Alors, justement, j'ai vu que vous aviez tous vos produits de la ferme, les fromages, enfin, il y a toutes sortes de choses, les produits laitiers et des produits qui viennent de très, très loin, puisque je vois qu'il y a des lentilles qui viennent de France, il y a de l'huile de colza qui vient de France. J'ai de la peine un peu à me situer par rapport à cette philosophie anthroposophique qui veut qu'on utilise ce qu'on a sous la main. Et là, on a des produits sous la main en Suisse qui ne sont pas là.
Alors, il y a certaines lentilles qui viennent de France, il y a d'autres lentilles qui viennent de Suisse, et il y a certaines lentilles qui viennent ici de la ferme de Trois-Roux, qui est juste à 5 km d'ici.
Et puis, il y a beaucoup de produits qui sont labellisés ou qui sont estampillés Demeter. Est-ce qu'on pourrait expliquer ce que signifie ce terme Demeter? Est-ce une marque? Est-ce une méthodologie de travail?
Alors, Demeter, c'est le label pour l'agriculture biodynamique. C'est la déesse grecque de la fertilité.
Ça signifie qu'ici à Loubier, on peut acheter des produits Demeter suisses, mais on peut aussi acheter des produits Demeter qui viennent de l'étranger?
Oui. Ou on peut aussi acheter des produits bio de Suisse ou aussi de l'étranger.
Donc je reviens à ma question. Donc, quelle est la priorité chez vous à Loubier? Est-ce les produits Demeter, les produits qui ont une philosophie, ou est-ce les produits locaux? Qui, à mon avis, les deux sont pas contradictoires. Parce que là, la confiture vient de France. La confiture, c'est quelque chose qui est très, très local, pourtant, ici. Enfin, moi, je fais toutes mes confitures moi-même à la maison.
Bon, moi, je viens à la rescousse de Christophe Cordès. Finalement, la confiture française, quand on parle de globalisation, de mondialisation, est-ce que c'est grave d'avoir des produits européens?
Alors, c'est pas grave. Christophe, il me regarde bizarrement, il commence à avoir peur. Non, pas du tout.
Oui, merci.
C'est juste que j'essaye de réciter le truc, parce que pour moi, quand on a comme ça une éthique, une philosophie, ben on se doit travailler avec des produits, quand il y a les produits du coin.
Je suis d'accord, Philippe, mais par exemple, moi, parfois, quand on me dit faut manger local, produits locaux, finalement, ça s'étend jusqu'où, la localité du produit?
Je pense que des fruits, on en trouve partout. Faire des confitures, pour moi, la confiture, c'est comme la salade l'été, comme la soupe l'hiver. La confiture, c'est le symbole même de l'autoresponsabilisation par rapport à la gestion des déchets. T'as des fruits qui sont abîmés, tu fais une série de confitures. La confiture, il n'y a rien de plus facile à faire. Tu laves tes fruits, tu les mets à cuire. Ah, je vais vous donner une recette de confiture. On n'est pas à la saison des confitures, mais c'est très simple.
Nous voulons la recette de confiture de Philippe Ligron.
Mais je vous l'ai déjà donnée d'ailleurs. C'est ce que j'appelle la confiture inversée. C'est-à-dire que vous pesez vos fruits et vous, de ce fait, vous pesez votre sucre. Alors normalement, enfin, mon père fait 1 kilo pour 1 kilo. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'on la garde mieux. Et puis, en général, moi, je mets entre 750 et 800 grammes de sucre par kilo de fruits. Ça dépend des années et de la teneur en sucre. Vous mettez votre sucre à cuire. Et une fois qu'il commence à peine à caraméliser, quand il commence à caraméliser, rajoutez vos fruits dessus. Faites attention de ne pas vous brûler. Ça, c'est ce qu'on appelle une confiture inversée. Vous la laissez cuire gentiment. Et à la fin, vous mettez un tout petit peu de jus de citron pour accentuer, comme ça, faire sortir le goût du fruit, comme on dit. Et puis après, vous stérilisez ça très rapidement. Vous n'avez même pas besoin avec la confiture. Vous mettez très chaud dans vos bocaux, rempli à ras-bord. Vous fermez le couvercle hermétiquement. Vous retournez votre bocal jusqu'à complet refroidissement et vous aurez vos petites confitures maison. Amusez-vous même à faire des assemblages, comme avec le vin.
Thank you.
La radio, nous y sommes. Alors sortons-en un peu pour prendre l'air.
Et faire un peu de place à la pub de Point Ouvrez les guillemets.
Hey,
تسمعوا اجي وتشوفوا سر عيشة حدا قتعيشة انواع كتيرة في الكمفيتور جودة عيشة ملهمتي.
واحد نهار دخل واحد الغريب لجنان وشعال من قبله حاول.
أنا الغريب أنا المجهول جيت على السر المكنون سر وصفة الكونفيتور أنواع كتيرة دوق رفيع
سر عيشة ديما محفوظ وصفة عيشة فقلوبنا ماشي
تكتوب كونفيتور عيشة وصفة مالي همتيل
الكونفيتور وصفة تقولي أحسك كل سوري ما تصبح لتي
en tête à Montézion, nous sommes à l'hôtel de...
L'hôtel de l'Aubier à Montézion.
Et l'hôtel de l'Aubier, c'est le...
C'est le premier.
Pied.
Ah, le pied, ouais, c'est le pied. On va la refaire.
Non, c'est très bien.
C'est très bien.
Bille en tête, du lundi au vendredi, 9h30, 10h.
On va revenir ici avec Christophe. Donc ici, vous avez un restaurant qui est ouvert tous les jours.
Oui. Tous les jours, 7 jours sur 7, de 7 du matin jusqu'à 11 heures du soir.
Alors, le menu, on sait que c'est compliqué maintenant, hein, puisqu'on a des clients qui ont de plus en plus de pathologies. C'est assez extraordinaire, moi je vois ça.
Pathologie mentale.
Peut-être, ouais, à mon avis, c'est surtout ça. Mais disons qu'on voit ces problèmes d'allergie, d'intolérance qui sortent de plus en plus. Est-ce qu'ici, à l'Aubier, à Montézion, on est aussi confronté à ce genre de problème?
Beaucoup, et là on a aussi un autre problème, parce que nous on est dans la promotion de nos produits, c'est-à-dire la viande, le blé avec du gluten et les produits laitiers avec du lait, avec la lactose.
Mais si vous faites votre pain vous-même, votre pain doit être certainement un peu plus assimilable pour les personnes qui ont des problèmes avec le gluten que d'autres. Est-ce que si déjà vous faites votre pain, vous utilisez quelles céréales pour faire votre pain ?
Du blé et du seigle.
Mais des vieilles céréales, parce que le blé, ça veut dire beaucoup de choses, mais...
Non, c'est des céréales, c'est des variétés récentes, mais ils étaient sélectionnés par un sélectionneur qui travaille dans la même philosophie que nous.
D'accord. Et le pain fait avec de la levure ou avec du levain ?
Il y a des deux sortes. Il y a un pain avec un levain au naturel, donc où il y a uniquement farine, eau et sel, rien d'autre. Et après, encore une
et
autre...
Le levain.
Je me permets une petite intrusion, désolé de vous couper la parole, mais peut-on rappeler ce qu'est le levain, la levure ? Car j'ai vu dernièrement, selon une enquête récente, la plupart des boulangeries de Suisse meurent, Philippe, au profit du pain industriel.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la levure chimique, la levure fraîche et il y a le levain. Alors, la levure chimique, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, avec quoi c'est fait. La levure de boulanger, la levure fraîche, c'est une levure qui est comme une sorte de pâte. Et le levain, c'est encore autre chose. C'est de l'eau avec de la farine qu'on va nourrir. Alors, il y a plusieurs levains possibles, mais ce sont des levures naturelles qui vont se développer depuis la farine grâce à l'humidité de l'eau et qui vont permettre une fermentation comme ça lors de la préparation du pain.
Expliquez-nous votre technologie culinaire.
Si vous voulez, je vous présente mon levain.
Ah oui, ah oui, volontiers.
Je vous cherche le levain et je vous laisse admirer la cuisine. Parce qu'il est à la cave, parce qu'il fait, il faut pas qu'il a trop chaud. Donc
D'accord. Il fait chaud ici.
Il fait chaud, ouais. Ouais, il fait chaud, le plafond est bas. Mais
c'est toujours comme ça, Philippe, les conditions d'un cuisinier ?
De moins en moins, parce que maintenant les cuisines sont de mieux en mieux aérées. Il faut savoir qu'ici, on travaille avec des plaques en métal. C'est du vieux fourneau, ça, mais ces plaques en métal, il faut... Il y a une inertie en termes de calories, hein, c'est-à-dire que là, il faut attendre un moment avant qu'elles refroidissent. Et pendant le service, on sait qu'il faut qu'elles soient chaudes. Donc tout ça, ça fait que ça garde la température. Et comme je le répète, le plafond est assez bas. Donc on sait que l'air chaud monte et puis là, on est en plein dedans.
Le levain, Philippe, le levain.
Enchanté. Bonjour levain. Donc là, on a de la farine, de l'eau. Vous avez rajouté autre chose dedans ?
Rien du tout.
Il y en a qui mettent de la pomme un peu dedans, non ?
Non, c'est uniquement farine et eau, chaque jour. Et il a 8 ans.
Et vous le nourrissez tous les combien ? Tous les jours ?
Tous les jours. Quand je fais du pain, 2 fois par jour.
Et alors, c'est pas un secret, quelle est la proportion entre la pâte à pain et le levain ? On met combien pour combien ?
D'arithmétique anthroposophique.
1 à 8 à peu près.
1 pour 8, un huitième.
Ça veut dire, Philippe ?
8 kilos de farine, tu mets 1 kilo de levain, c'est ça?
À peu près, mais il y a plein de différentes manières. On peut aussi faire avec moins et après ça change le temps de la pousse, etc. Mais...
Une seule fermentation ou plusieurs?
Deux.
Pour les béotiens, c'est possible d'expliquer en détail ce qui se passe?
Alors, tu prends de la farine, de l'eau, du sel, dans lequel tu vas rajouter pour un huitième du levain. Tu vas mélanger ça et tu vas laisser ton pain pousser. C'est-à-dire que tu vas le laisser dans un... Tu vas le bouler légèrement.
Alors moi, je le pétris d'abord. Après, je le laisse tranquille à peu près une heure ou un petit peu plus longtemps.
Et là, il commence à pousser déjà?
Et là, il commence déjà à pousser.
À pousser, c'est-à-dire qu'il y a la fermentation qui commence à agir et qui fait qu'il y a un dégagement de gaz carbonique à l'intérieur qui fait que le pain commence à devenir de plus en plus léger.
Il gonfle un peu, oui. Et ensuite, on sort tous les gaz et on le façonne, on le forme et je le mets dans des petits moules qui sont là-bas et je le laisse pousser et le lendemain, je le cuis.
Christophe, comment en êtes-vous venu à confectionner votre propre pain?
Je me suis intéressé, je trouvais ça fascinant, j'ai commencé, j'ai testé, et voilà.
On dit 8 ans, ce levain-là, qui s'appelle levain, je le rappelle. Philippe, on a rencontré des gens qui nous ont peut-être raconté un peu des bêtises, ils nous disaient qu'ils avaient des levains qui avaient plus d'un siècle.
Ah oui, il y en a même qui disent, alors tout ça, on ne sait plus où est la part de la réalité, il y en a même qui nous disent que leur levain daterait de siècles précédents, et voire même du Moyen-Âge, hein, ça, à mon avis, c'est plus ou moins utopique, parce qu'un levain... Enfin, t'as un jour à mourir, mais après, voilà, si tu le nourris tous les jours, il n'y a pas de date limite en tout cas. Ce qu'il faut faire très attention, c'est comme disait Christophe, le levain, ça ne craint qu'une chose, c'est la température. C'est très sensible à la température, donc il faut vraiment le garder à une température adéquate. On est à quelle température là pour le stockage?
Alors, il ne faut pas dépasser les 27 degrés, quelque chose comme ça. Donc,
Ok, d'autres produits que vous faites ici vous-même?
Moi-même?
Pas vous, mais ici à l'Aubier?
Ben, en été, on fait des confitures. Parce que quand on a des fruits qui se gâtent ou quand quelqu'un nous dit « Écoute, j'ai des fruits qui se gâtent un peu, tu les aimerais ?» Alors on fait la confiture, mais on ne fait pas assez pour le magasin et pour l'hôtel, etc. Et autrement, on fait plein de choses, on fait tout de A à Z.
Philippe, j'aimerais qu'on parle du plat du jour. Pour moi, c'est très important, les restaurants qui font des plats du jour variés. Et là, quelque chose m'a mis en appétit, je dois l'avouer. Ce sont ces œufs pochés, sauce au fromage de l'Aubier, salade de lentilles tièdes.
Exactement, alors il y a plein de choses différentes. Certains végétariens mangent des œufs, donc c'est intéressant, ça te fait un plat végétarien assez facile à réaliser. Sauce au fromage de l'Aubier, alors je sais pas de quel fromage il s'agit, je pense que c'est du fromage fondu dans lequel on va rajouter un peu de crème et puis pourquoi pas un peu de bouillon pour essayer d'avoir une certaine onctuosité. Et puis ça après je sais pas exactement comment ils font.
Les œufs pochés, parce que les œufs, on sait qu'on peut en faire des millions de choses. C'est quoi la différence entre des œufs pochés, des œufs miroirs, des œufs... Enfin voilà, il y a différentes appellations.
Alors les œufs pochés, c'est quoi? C'est un œuf qu'on va pocher dans un bouillon, mais dans le cas de l'œuf, on n'utilise pas un bouillon, on utilise généralement de l'eau vinaigrée. C'est-à-dire tu prends de l'eau dans laquelle tu as une casserole d'eau dans laquelle tu vas mettre très très peu de sel, tu rajoutes un tout petit peu une cuillère à soupe de vinaigre et tu fais chauffer. Quand ton eau elle est à 85 degrés, tu vas casser délicatement ton œuf dans un ramequin, hein, tu le casses pas directement dans la casserole parce que tu as une chance sur deux que ça casse, et délicatement, tu vas, avant de mettre ton œuf, tu donnes un certain mouvement pour créer un courant rotatif comme ça de l'eau chaude dans ta casserole, et puis tu vas délicatement mettre l'œuf dedans et tu vas l'amener avec une spatule, moi je le fais même avec une fourchette, à se replier sur lui-même pour que tout le blanc d'œuf couvre le jaune d'œuf. Et puis une fois que tu as fait ça, eh ben tu attends comme ça qu'il cuise quelques minutes, et une fois que c'est fait, tu vas le sortir, l'égoutter sur un linge sec, ou tu peux utiliser du papier ménage, mais sur un linge ça va mieux. Et puis après tu peux le servir sur des épinards frais que tu as fait sauter, ou tu peux servir ça avec une sauce meurette ou ce genre de choses, c'est-à-dire une sauce au vin rouge à base de vin rouge. Tu peux servir ça avec des champignons. C'est très très bon. C'est un repas qui coûte pas cher, qui est bon pour la santé et puis qui est éco-responsable puisque des œufs on en trouve ici.
À baiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois. Pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre. Qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
C'est à Montézillon, Philippe.
Oui, à Montézillon, en compagnie de Christophe Cordès, directeur du lieu.
Bienvenue au Resto de l'Aubier. Alors Philippe, on va parcourir peut-être dans l'ordre chronologique. En l'occurrence, on va commencer par l'évidence même, à savoir les entrées.
Oui, alors les entrées, attends, parce qu'il faut que je vois quelque chose.
Comment on ferait pas le jus? Le jus de carotte, on a un jus de carotte frais. De nos carottes, qui est magnifique.
Alors, quel est l'avantage de boire un jus de carotte avant de manger?
C'est très bon. Alors, c'est certainement diététique aussi.
Bon pour le teint.
Oui, et ça ouvre l'appétit. Je ne sais pas, diététiquement parler.
Diététiquement parlant, c'est aussi intéressant parce que la carotte contient beaucoup de vitamine D. Et la vitamine D, ben, c'est bon pour la santé. La seule spécificité, faites attention, c'est que les carottes, il faudrait les consommer avec de la matière grasse. Parce que la vitamine D fait partie des vitamines liposolubles, telles que la vitamine A, D, E, K. Et ces vitamines sont assimilables en présence de graisse, enfin, en tout cas de matière grasse. Donc, n'oubliez pas de manger des matières grasses avec des carottes.
Merci docteur.
Je vous en prie.
Les auditeurs nous appellent pour nous remercier de ces précieux conseils.
Donc,
un petit jus de carotte.
Et puis après, il y a les soupes, très très intéressant, vraiment. Ça c'est pareil, ça revient un peu à la mode ces soupes, mais ça a eu une connotation un peu péjorative ces dernières décennies. Mais une soupe, c'est magnifique, parce qu'une soupe, c'est plein de vitamines si vous la cuisez pas pendant 2 heures. Une soupe, ça se cuit pendant 15 à 20 minutes. Utilisez ce que vous avez dans le réfrigérateur, ça veut dire que vous avez zéro déchet. Dans une soupe, vous avez un bout de carotte, un bout de céleri, vous mettez ce que vous avez, vous allez obtenir des soupes à chaque fois différentes. Et vraiment, c'est significatif. Moi, je mets toujours un peu de pommes de terre dedans. Pas besoin de mettre du bouillon en poudre ou ces machins industriels. Mettez de l'eau et vous verrez que ça aura tout aussi bon goût. Et puis après, il y a des fougasses. Ça, c'est une spécialité de la maison, Christophe?
Aussi, oui.
Christophe, on peut développer.
Alors, Christophe, en quoi consiste la fabrication des fougasses ici? C'est quelque chose qui n'est pas tellement du coin, la fougasse.
Non, c'est pas du coin, on pourrait dire une focaccia, mais c'est des pains plats. Alors, les fougasses, ils ont migré du café à Neuchâtel, aussi à Montézillon. Donc, les fougasses, c'est aussi moi qui les fais ici. Un grand pain plat qu'on peut couper et ensuite fourrer avec soit une bonne sauce aux champignons ou du fromage, du jambon ou une sauce bolognaise ou des légumes, ce qu'on veut.
Mais je vous invite vraiment à essayer ces fougasses. On les trouve dans les vieux grimoires de cuisine où elles ne s'appellent pas fougasses, on les appelle la fouasse et on les appelle même dans le sud de la France la pompe à huile. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et c'est très très intéressant parce que c'est tout con à faire. C'est une pâte à pain dans laquelle vous allez mettre à nouveau ce que vous avez dans votre frigo. Vous pouvez faire une fougasse aux légumes, on peut faire une fougasse au grebon, au lardon, mettre déjà julienne de jambon, mettez un peu de matière grasse dessus, mettez un peu de gros sel. De gros sel dessus, vous mettez quelques herbes, vous mettez ça à cuire et vous obtenez une fougasse extraordinaire. Surtout si c'est fait avec du levain maison, comme celui de Christophe.
Archive, bille en tête.
Faut sonner. Pardon ? Excusez-moi ? Pardon, madame ? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. Il y a du pain qui est au feu de bois. Il y a des confitures, on a de l'huile de colza aussi.
C'est gentil.
Non, ça va ?
Merci.
D'accord, merci, hein, bonne journée.
Merci pareillement.
Voilà, je crois que c'est une cliente. Visiblement, je me suis trompé. C'est pas grave, ça me fera un micro-trottoir pour la peine. Alors, peut-être revenir à cette carte si vous le voulez bien.
Cette carte, donc la fougasse. Après, il y a les pâtes. Donc, les pâtes, j'imagine, sont des pâtes faites maison aussi ?
Non, malheureusement pas. Mais c'est les pâtes Déméter.
D'accord. Alors, en quoi ça consiste ? Pourquoi vous ne les faites pas maison, les pâtes ? Parce que vous avez aussi une dynamique... Non, je parle de ça parce que vous faites votre farine vous-même. On sait qu'une pâte à nouilles, il n'y a rien de plus simple à faire. Hein, c'est 100 grammes de farine, un œuf, une cuillère à café d'huile de noix locale, à privilégier à l'huile d'olive, un petit peu d'eau, et puis on obtient une pâte à nouilles. C'est très, très simple. Vous étalez ça. Vous la laissez reposer, bien sûr, pour éviter l'élasticité. Surtout, vous évitez de la saler. Vous ne la salez pas, votre pâte. On sale la cuisson, mais pas la pâte à nouilles. Et puis après, vous pouvez faire toutes sortes de pâtes. Donc là, des pâtes que vous achetez.
On n'a pas voulu compliquer encore la vie dans la cuisine, parce que c'est déjà assez compliqué avec toute la mise en place. Et on s'est décidé pour les pâtes.
Mais c'est vrai, je défends un peu Christophe parce que pour moi c'est facile de faire un peu le cauchemar en cuisine en arrivant en disant ouais, vous faites pas ci, vous faites pas ça. Mais en cuisine, il faut savoir que maintenant on a de moins en moins, il y a de plus en plus de stress et puis c'est compliqué de faire des pâtes fraîches à la minute comme ça. Il faut vraiment avoir la possibilité d'avoir le temps de les faire parce que les pâtes ça peut être très très bon, mais ça peut être dégueulasse si c'est mal fait.
Ça peut être très inégal aussi.
Oui, ben ouais. Mais c'est ça la magie de la cuisine aussi. Hein. Faire des tagliatelles à la minute, c'est facile hein, faire des tagliatelles. Vous faites vous étalez votre pâte au laminoir, et après vous la roulez, vous coupez ça en morceaux, et au couteau, vous coupez des bandes d'un centimètre de large, vous avez des tagliatelles fraîches. Hein. On continue. Végétarien, ça c'est aussi une demande que vous avez de plus en plus ?
C'est une demande qu'on a de plus en plus, mais c'est aussi quelque chose qui est depuis toujours sur notre carte. On regarde toujours qu'on a... un équilibre entre les plats végétariens et les plats avec la viande.
Alors, Hippocrate a dit, ton premier médicament sera l'aliment.
Exactement. Et puis, on voit des choses intéressantes. Hein. Galette de l'aubier, on a la galette du chasseral avec une tome chèvre chaude, le cake moelleux à la ferra et aux légumes de saison, salade verte.
Filet mignon, Philippe.
La tome burger à la pomme avec potatoes, ketchup. On a du sauté de légumes façon bamigoring. Donc, il y a vraiment une créativité incroyable avec
un émincé de bœuf sauce balsamique.
Ah, mais toi, t'es plus dans le végétarien, là. Hein.
Non.
Donc, on a les filets mignons de porc, sauce forestière, tartare de bœuf et son bouquet de salade verte. Ossobuco de veau à la milanaise. Ça, c'est beau.
Oh, un ossobuco.
Ça, moi, j'en ai l'eau à la bouche, rien que d'en parler. L'émincé de bœuf à la sauce balsamique, tranche de porc, sauce au pruneau et amandes, légumes du moment. Et basmati. Donc il y a vraiment pas mal de choses à découvrir et c'est intéressant d'avoir aussi des mets cuisson courte, des mets cuisson longue. On sait maintenant en cuisine que quand on est peu, quand on a beaucoup de travail, on peut travailler aussi avec la cuisson sous vide, c'est-à-dire qu'on va cuire l'aliment sous vide, ce qui va nous faire gagner au niveau de la conservation. Après, on n'a plus que de la régénération à faire et ça veut dire que ça nous soulage pendant le service.
Sous vide, comme je procède régulièrement avec mes plats congelés au micro-ondes.
C'est ça.
Sous vide, hein, il y a un petit fil en plastique dessus.
C'est ça. On voit que vous proposez des fondus au fromage aussi, du fromage de la...
Du fromage de l'aubier.
Fromager. Lesquels alors ?
Alors, la tourne, le montésien et le vigneron.
Donc, trois fromages.
Oui.
D'accord. Et puis ça pose pas un problème parce que si on sait, enfin, moi, je travaillais dans un restaurant où on avait des fondus à la carte et je sais que quand on avait, c'était toujours un peu la bagarre avec le service parce que on essayait, puis ce sera ma dernière information de la journée. Je vous laisse méditer, vous qui nous écoutez sur cette réflexion. C'est-à-dire qu'au restaurant, on essayait toujours de faire traîner les fondus pour les servir le plus tard possible parce qu'on savait que si la première table, on vendait une fondue, après, les autres clients n'avaient plus le choix que de manger de la fondue parce que tu vas pas manger quelque chose de très subtil à côté de quelqu'un qui mange une fondue. Parce qu'après, tout sent le fromage, finalement. Donc voilà, on faisait ça en cuisine pour éviter d'avoir ce problème.
Alors pour moi, ça serait une fondue et un ossobuco, Christophe.
Très volontiers.
Ok. Bah, à demain, Philippe.
Allez, à demain. Je vois que ça va être léger le repas de midi. En attendant, on vous remercie, vous qui nous écoutez. On ne sait pas ce que vous allez manger à midi. Eh bah, tiens, mettez-le sur la page Facebook. Renseignez-nous et ça nous donnera des idées de repas.
Ah, comme ça, on pourra, nous, à notre tour, écrire miam miam. Hein, Philippe?
Miam miam, exactement. Allez, on vous embrasse, à demain. Salut.
La confiture, ça dégouline. Ça coule sur les mains, passe par les la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr on peut avec du beurre. Les trous on peut bien les boucher, mais ça ne sert à rien. C'est pas l'heure, ça coule par les côtés.
Il est 10h sur la première.